Il est 8h à Port-au-Prince, 7h à Mexico, 13h en temps universel.
RFI Midi, Alban Le Prince.
Toujours à l'écoute de RFI Midi, demi-heure consacrée aux Amériques des États-Unis, à Haïti en passant par le Brésil. Le Brésil où Jair Bolsonaro, l'ancien président, a été inculpé hier, accusé aux côtés de 33 autres personnes de tentative de coup d'État contre son successeur Lula. On va également revenir sur les raisons qui ont poussé le conseil présidentiel de transition haïtien à annuler le carnaval national prévu du 2 au 4 mars, même si au niveau régional, les festivités restent possibles. Nous intéresserons également aux conséquences de la suspension des fonds versés par l'USAID aux pays d'Amérique latine et plus particulièrement la Colombie, où notre correspondante a rencontré la dirigeante d'une fondation qui offre chaque jour 600 repas à des réfugiés vénézuéliens. Gwendolina Duval évoquera avec nous la lutte du gouvernement mexicain contre le trafic d'armes importées des États-Unis, alors que le pays, rongé par l'insécurité, enregistre près de 30 000 homicides chaque année. Et puis on terminera, comme chaque jour, avec le journal des Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Alban. Nous parlerons du nouveau directeur territorial de la police nationale en Martinique qui s'est dit ce matin au micro de la première très étonné par le niveau de violence dans l'île des Antilles.
Merci beaucoup Benoît. À tout à l'heure. C'est l'heure du journal.
RFI Midi.
Avec vous, Karine Bellicha, bonjour.
Bonjour Alban, bonjour à tous.
Et tout d'abord, cette question pour commencer. Keith Kellogg va-t-il réussir à réchauffer les relations entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ?
Rien n'est moins sûr, tant les tensions sont fortes. L'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine est arrivé à Kiev ce matin, au lendemain de la réunion russo-américaine à Riyad, dénoncée par le président ukrainien tenu à l'écart. Au lendemain, également, de nouvelles déclarations incendiaires du locataire de la Maison-Blanche qui estime, malgré les faits, que Kiev a initié la guerre et que Volodymyr Zelensky est très impopulaire. La première déclaration de Keith Kellogg s'est voulue apaisante.
C'est bon d'être de retour à Kiev. J'ai eu de très bons entretiens avec le président Zelensky, son équipe et les commandants militaires. Vous savez, c'est plutôt bien d'être ici quelques jours seulement avant le troisième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, avec l'occasion d'avoir de bonnes discussions substantielles. Nous avons eu l'occasion de voir le président Zelensky et son équipe à Munich, donc je pense que l'on va poursuivre ces échanges. J'ai hâte de le faire. Je pense que nous allons écouter. Nous comprenons la nécessité de garanties de sécurité. Une partie de ma mission ici est de m'asseoir, d'écouter et de dire quelles sont vos préoccupations. Vous savez, cette guerre dure depuis 3 ans. Le président Trump a raison. C'est une guerre qui n'aurait pas commencé s'il avait encore été président.
Keith Kellogg, l'envoyé spécial américain à Kiev ce matin, mais l'apaisement recherché n'est pour le moment pas suivi d'effet. Volodymyr Zelensky a de nouveau répondu lors d'une conférence de presse à Donald Trump. Selon lui, le président américain vit dans un espace de désinformation russe.
Et l'Europe, elle, de son côté, tente d'exister face au tête-à-tête américano-russe.
Paris est de nouveau à la manœuvre aujourd'hui. Emmanuel Macron juge que la Russie représente une menace existentielle pour les Européens et organise une nouvelle réunion aujourd'hui à l'Élysée. Des pays européens qui n'étaient pas présents lundi lors d'un premier round de discussion sont invités par visioconférence. Le président français a entendu les appels à élargir le cercle. Les Pays-Baltes et la Finlande, notamment, devraient être représentés, ainsi que des alliés des 27 au sein de l'OTAN, comme le Canada.
Les Européens sont aussi sous pression sur le dossier agricole.
Un an après les grandes manifestations d'agriculteurs de Paris à Varsovie, la Commission dévoile sa vision pour l'avenir de l'agriculture. Une batterie de mesures qui vise à répondre à l'appel à l'aide du monde agricole, selon l'exécutif des 27. Pierre Benazet, vous êtes à Bruxelles. Ce secteur stratégique doit être, dit la Commission, prospère et attractif.
Oui, et pour ça, il faut des actions. Après les manifestations l'an dernier, la Commission avait mis sur la table déjà des simplifications de la politique agricole commune, dans le but premier d'alléger le fardeau réglementaire, cette paperasse de déclaration à remplir sous laquelle croulent les agriculteurs européens. Un an après, cet allègement administratif reste une priorité, même si les ambitions de verdissement restent en place. Mais entre-temps, des consultations ont été menées avec les agriculteurs et le secteur alimentaire pour offrir une perspective à beaucoup plus long terme. Il n'y a pas encore de mesures tangibles, mais un cadre qui doit permettre à l'agriculture européenne, à l'horizon 2040, d'être non seulement reconnue comme un secteur de souveraineté stratégique, mais aussi d'assurer sa croissance et son attractivité pour attirer les jeunes agriculteurs, leur donner l'accès à la terre, à des capitaux. C'est la préoccupation de départ de la Commission. Elle va devoir maintenant faire des propositions précises. On sait déjà, par ailleurs, qu'elle veut, entre autres, accélérer la création de biopesticides pour remplacer la centaine de substances chimiques interdites ces dernières années, ou encore revoir les conditions d'importation de produits agricoles qui n'obéissent pas aux mêmes critères d'environnement ou de sanitaire qu'en Europe. Un point qui pourrait créer des contentieux commerciaux à l'heure même où les États-Unis laissent planer la menace de droits de douane.
Pierre Benazet, en direct de Bruxelles.
Les enjeux économiques versus les normes environnementales. Le Brésil aussi balance entre ces deux impératifs.
Et c'est désormais officiel, Brasilia va rejoindre l'OPEP+, le cercle élargi de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Une décision qui peut surprendre alors que le pays va accueillir en fin d'année la COP30 sur le climat et qu'il se pose en champion en la matière. Mais voilà, le Brésil est dans le même temps un important producteur de pétrole. Simon Rosé.
Aujourd'hui, 9e producteur mondial de pétrole, le Brésil entend devenir le 5e en 2030. Le Brésil a besoin de grandir, de générer des revenus et des emplois, affirmé ce mardi Alexandre Silveira. Le ministre de l'Énergie annonçait alors l'adhésion de son pays à l'OPEP+. Adhésion cohérente avec la volonté brésilienne de développer ce secteur, en témoignent des projets d'exploitation offshore au large de l'embouchure de l'Amazon. Mais dans les faits, le pays n'aura accès qu'à un forum de discussion. Il ne participera pas à la prise de décision de l'OPEP. Le signal envoyé par ailleurs contradictoire avec la volonté affichée par le président Lula de faire du Brésil un champion de la lutte contre le réchauffement climatique. Gustavo Batista est professeur à l'Institut des géosciences de l'Université de Brasilia, interrogé par Raquel Miura de la rédaction brésilienne de RFI.
Cela n'a pas de sens pour un pays qui va accueillir la COP30. Nous voyons le gouvernement s'allier au pays de l'OPEP avec le discours que cela aidera à les convaincre d'une transition énergétique vers les biocarburants. Je ne vois pas le sens de ce genre de rapprochement. Tout comme je ne vois pas le sens du processus d'exploration pétrolière à l'embouchure de l'Amazone. Pour moi, c'est une balle dans le pied.
Analyse partagée par l'Observatoire du climat, un réseau de 133 associations civiles et académiques brésiliennes qui regrettent dans un communiqué le choix de l'exécutif de se tourner vers des solutions du passé pour faire face aux défis actuels.
En France, 3e jour du procès des hommes accusés d'être les geôliers de l'État islamique, dont les Français Mehdi Nemmouche et Abdel Malek Tanem, présents dans le box.
Et la parole est au journaliste français, ancien otage du groupe terroriste en Syrie. Des témoignages très attendus. Laura Martel, vous suivez le procès à la Cour d'assises spéciale de Paris. Le récit du photographe Édouard Elias était glaçant ce matin. Tout juste 22 ans au moment de son enlèvement, il a raconté les sévices quotidiens. Et puis, il y a ce qu'il a dit de Mehdi Nemmouche, Laura, sans jamais le nommer.
Après 2 mois de séquestration, Édouard Elias et les autres otages entendent de plus en plus de voix francophones au fil des changements de lieu de détention, des voix qui torturent. On se dit, putain, si on survit à cet endroit, il faut se rappeler le plus de choses possibles, car si des Français sont là pour torturer et mettre en pièces des Syriens, il faut pouvoir raconter. Au début, on a été détruits, être attentif, analyser, c'est devenu notre combat. Et puis il y a cette voix plus douce, qui un jour entonne « Douce France, cher pays de mon enfance », et qui très vite s'impose, leur fait des quiz, provoque, questionne, harcèle, tout en poursuivant les sévices. Les geôliers syriens nous torturaient, mais les Français se défoulaient littéralement sur nous avec plaisir. C'est ça aussi qui restait ancré en nous, cette véritable haine. Sans nommer Mehdi Nemmouche, Édouard Elias insiste. La voix que j'ai entendue 3 fois ici, je la reconnais, c'est celle que j'ai entendue en Syrie tout le temps. Cette diction, ces tournures de phrases avec un peu de cynisme et d'arrogance. Je suis formel, car c'est au fond de mes tripes. Et physiquement, vous le reconnaissez? Levez-vous, monsieur Nemmouche, demande plus tard le président. Long regard entre l'ex-otage et son tortionnaire présumé, séparé d'à peine 3 mètres. Il était cagoulé, je ne peux pas dire, je ne sais pas, indique Édouard Elias. La main portée au cœur, il confie, mais dès que cette personne parle, je ressens cette peur.
Le récit de Laura Martel en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris.
Dans votre journal, Karine Bellicha, merci beaucoup.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Au Brésil, l'étau se resserre un peu plus autour de Jair Bolsonaro, l'ancien président inculpé hier pour tentative de coup d'État aux côtés de 33 autres personnes. La justice leur reproche d'avoir voulu empêcher le retour de Lula au pouvoir en 2022. Selon le procureur, ils sont accusés d'avoir incité et exécuté des actes contraires aux 3 pouvoirs et à l'état de droit démocratique. Les explications de la correspondante de RFI à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino. L'étau se resserre un peu plus autour de Jair Bolsonaro. Basé sur une enquête de la police fédérale en décembre 2024, le procureur général pointe l'ancien président comme le leader d'une organisation criminelle structurée dont le but était de garantir sa permanence au pouvoir. De la campagne de désinformation sur le système des urnes électroniques jusqu'aux émeutes du 8 janvier 2023 à Brasilia, le rapport d'enquête de 800 pages de la police fédérale détaille les plans des 34 accusés, parmi lesquels le colistier de Jair Bolsonaro en détention préventive depuis le mois de décembre. La décision est désormais entre les mains de la Cour suprême qui pourra décider de l'ouverture d'un procès. Mais l'ancien président a déclaré ce mardi ne pas être inquiet quelques heures avant l'annonce de son inculpation. Alors que la popularité de Lula est au plus bas, Jair Bolsonaro ne semble pas avoir renoncé à sa candidature à la présidentielle en 2026. Lui et ses soutiens répondent aux accusations en deux mots, persécution politique. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et on apprend dans la presse brésilienne, Anne Verdaghe, que Jair Bolsonaro prépare déjà sa contre-attaque.
Oui, toute cette semaine, explique au Globo, l'ancien président d'extrême droite a multiplié les prises de contact. Jair Bolsonaro va rencontrer aujourd'hui des députés de l'opposition et d'autres parlementaires acquis à sa cause. Lors de cette rencontre, croit savoir le journal brésilien, il compte plaider en faveur d'un projet d'amnistie pour les personnes reconnues coupables lors de l'insurrection du 8 janvier 2023 à Brasilia. Les partisans de l'ex-président avaient envahi le siège des trois pouvoirs une semaine après la victoire de Lula, l'actuel président brésilien. Jair Bolsonaro compte aussi tenter de modifier la loi dite Clean Record qui lui permettrait de devenir à nouveau éligible. Pour Folia de Sao Paulo, Jair Bolsonaro adopte la tactique Trump pour revenir au pouvoir et il y croit d'autant que Lula est très bas dans les sondages, mais aussi parce que la croyance selon laquelle un ancien président sous le coup d'une condamnation ne peut pas se représenter n'est plus valable depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
En Haïti, face à la polémique, le Conseil présidentiel de transition rétropédale. Il annule le carnaval national prévu à Fort-Liberté dans le nord du 2 au 4 mars, annonce dans un communiqué publié hier soir. Raison avancée, la détérioration de la situation sécuritaire à travers le pays. Le CPT assure avoir pris en compte les préoccupations exprimées par la population dans les médias et les forums citoyens. Il faut dire que les habitants qui manquent de tout avaient du mal à digérer les 300 millions de gourdes, soit plus de 2 millions d'euros décaissés par le gouvernement pour l'organiser, à l'image de ces Porto-Princiens rencontrés par le correspondant de RFI, Peterson Luxama.
Seul un État irresponsable, seul un État insouciant dépenserait des millions de dollars pour organiser un carnaval juste pour le plaisir, malgré la situation sécuritaire aussi chaotique du pays, qui a des problèmes presque partout, notamment dans la capitale.
Organiser le carnaval alors que le pays est dans un état critique, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas imaginer organiser des festivités chez moi alors que des membres de ma famille sont malades et plongés dans la tristesse.
Nos activités sont complètement paralysées. Le pays n'a pas besoin d'ambiance ni de festivités. Il a besoin de sécurité car nous ne vivons pas sereinement. C'est la misère, la fuite permanente. Nous ne savons plus quoi faire.
Le carnaval national est donc annulé. En revanche, au niveau national, il reste autorisé, précise le Conseil présidentiel de transition. Une bonne nouvelle pour Johnny Battisma. Il est animateur culturel et pour lui, Haïti doit montrer un autre visage que celui de l'insécurité.
Le carnaval est une manifestation culturelle qui permet aux autres nations de découvrir ce que nous faisons de bon et de voir une autre image du pays. Trop souvent, l'insécurité est la seule chose mise en avant à l'international. Le carnaval est donc une occasion idéale pour mettre en lumière notre créativité et le vivre ensemble haïtien.
Anne Verdaghe, la presse haïtienne est plutôt unanime. Elle salue d'une seule voix cette décision d'annuler le carnaval national.
Oui, Franz Duval, dans son éditorial du Nouvelliste, estime que le gouvernement a écouté la voix de la sagesse. Tout le monde gagne et personne ne perd la face, ajoute notre confrère, pour qui le gouvernement haïtien propose pour une fois une décision qui lui permet de faire croire qu'il est à l'écoute des critiques. Alter Presse, de son côté, revient sur la levée de bouclier qu'a provoqué l'annonce de la tenue du carnaval à Fort-Liberté. Distraction honteuse, indécence, injustice, irresponsabilité, mépris des revendications de la population. Les mots ne sont pas assez forts pour décrire le sentiment des organisations de la société civile. L'agence en ligne rappelle le montant qui devait être accordé aux festivités, 300 millions de gourdes, un peu plus de 2 millions d'euros, vous l'avez dit, alors que le pays manque de tout et que plusieurs milliers de personnes ont été déplacées en raison de la violence des gangs armés et vivent dans des conditions infrahumaines.
RFI Midi, Alban Le Prince.
Et la suite de votre revue de presse, Anne, après la décision du président américain d'expulser massivement les migrants illégaux des États-Unis, le New York Times a rencontré des migrants qui, eux, ont atterri au Panama.
Oui, à la une du journal, une photo d'un hôtel modeste la nuit, aux fenêtres des dizaines de migrants qui se couvrent le visage. Aucun n'est originaire du Panama. Ils viennent d'Afghanistan, d'Iran, de Chine, des pays où il est difficile de les renvoyer. Ils sont donc parqués dans un pays inconnu, 170 personnes enfermées dans cet hôtel où un migrant a tenté de se suicider, un autre s'est cassé la jambe en tentant de s'enfuir, raconte le Los Angeles Times. On leur a enlevé leur passeport, leur téléphone, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. On leur a dit qu'ils seront peut-être acheminés vers un camp de fortune dans la jungle panaméenne. Le Panama en est maintenant responsable et le pays est sous une pression intense des autorités américaines qui a menacé de reprendre le canal du Panama.
Les États-Unis qui ont annoncé la suspension des fonds de l'USAID et ça fait débat en Colombie. L'USAID qui finançait jusqu'ici des programmes très différents et notamment les associations de défense de migrants. Reportage de la correspondante de RFI, Marie-Ève de Teuf.
La suspension des fonds du Saïd a fait les gros titres de la presse colombienne. La coopération américaine finançait ici des programmes très divers, de la protection de la forêt amazonienne à la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2016 avec la guérilla des FARC, en passant par l'éradication des cultures de coca ou encore l'aide aux migrants. La Colombie a reçu en moins de 10 ans plus de 3 millions de Vénézuéliens. Dans la ville de Bucaramanga, Alba Pereira dirige une petite fondation qui employait 16 personnes et qui offrait tous les jours 600 repas gratuits aux Vénézuéliens les plus démunis. Alba a dû mettre la clé sous la porte.
Nous avons dû licencier les employés et la population dont nous nous occupions ne reçoit plus d'aide. La situation est terriblement critique, surtout qu'en ce moment, en plus de la question des migrants, il y a aussi celle des déplacés internes. La ville de Bucaramanga accueille aujourd'hui des déplacés qui arrivent de la région de Catatumbo.
Dans cette région du nord-est du pays, les combats entre des groupes armés ont provoqué depuis la mi-janvier le déplacement de quelques 50 000 personnes. La suspension de la coopération américaine n'a été décrétée que pour 90 jours, mais Alba Pereira ne se fait pas d'illusions sur son éventuelle reprise.
On nous dit que la suspension des fonds est provisoire, mais nous on a des doutes, parce que les priorités vont changer. L'aide humanitaire ne devrait pas être arrêtée, mais elle va à des groupes de population que lui, Trump, et son gouvernement ne veulent pas aider, comme la communauté des migrants.
Partout dans le pays, les responsables des ONG revoient à la baisse leur action et réduisent leurs équipes. La politologue Elizabeth Dickinson de l'organisation Crisis Group évalue l'impact de la suspension du Saïd.
Elle se traduit d'abord par un vide énorme pour répondre à la crise humanitaire, mais aussi pour changer le fond des choses qui contribuent au recyclage du conflit. Ensuite, elle signifie qu'on n'a laissé ni le temps, ni la possibilité à l'État colombien de pouvoir penser ou planifier comment remplir ce vide.
Elizabeth Dickinson rappelle qu'USAID et les organisations qui opèrent sur le terrain, notamment dans les régions où il y a des armes, travaillent avec des locaux qui doivent gagner la confiance de la population et la convaincre de la valeur des projets engagés. La suspension de l'aide américaine sans préavis aucun a des conséquences pour ses leaders sociaux.
Maintenant, l'USAID se défile, sans dire aux gens ce qu'il se passe, sans leur expliquer la situation. Et du coup, c'est au leader social qui a organisé le projet avec la confiance du Saïd de s'exposer devant les gens de sa communauté, ce qui le met en grand danger. Cette personne n'a ni les moyens de régler la situation, ni les moyens d'assurer sa propre sauvegarde.
La Colombie est le pays le plus dangereux au monde pour les leaders sociaux. Selon l'organisation Indepas, en 2024, 173 d'entre eux ont été assassinés.
Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Le Mexique, de son côté, parvient à tenir Donald Trump à distance, selon le Los Angeles Times, qui analyse la stratégie de la présidente Claudia Sheinbaum.
Elle a été imperturbable sur les taxes douanières et a réussi à obtenir un répit après un coup de fil de 45 minutes avec Donald Trump, qui ensuite dit qu'il l'appréciait beaucoup, Claudia Sheinbaum, qui dit qu'il faut garder la tête froide et ce n'est pas une tâche facile, poursuit le journal, quand il faut d'un côté gérer un président américain lunatique et d'un autre apaiser une base électoraliste rendue hypersensible sur toute ingérence américaine. La présidente mexicaine y arrive en marchant sur une corde très étroite, sans jamais provoquer l'affrontement avec les États-Unis, ce qui, elle le sait très bien, serait terrible pour le Mexique.
Les États-Unis, où la Cour suprême, la plus haute instance de justice américaine, doit examiner le 4 mars prochain, dans un peu moins de 2 semaines donc, des plaintes du Mexique contre le trafic d'armes importées des États-Unis, sujet qui revient très fréquemment ces derniers temps dans les discussions entre les gouvernements des deux pays qui cherchent à endiguer l'insécurité, encore plus au Mexique, qui souffre depuis près de 50 ans d'une criminalité très importante. Le pays enregistre près de 30 000 homicides chaque année et les différentes stratégies mises en place jusqu'ici ne semblent pas fonctionner. La correspondance à Mexico pour RFI de Gwendolina Duval.
Face à la foule, des militaires détruisent une arme lourde pour faire un exemple. À Mexico, sur le parvis de la basilique de Guadalupe, les autorités lancent un programme de désarmement volontaire. Pendant quelques jours, les habitants de la capitale sont invités à échanger anonymement des armes à feu contre de l'argent liquide, jusqu'à l'équivalent de 2000 euros pour un AK-47. Clara Brugada, maire de Mexico.
Chaque arme récupérée représente un crime en moins dans ce pays.
En
2019, il y avait 4 homicides par jour dans la capitale. Mais grâce à cette politique, la moyenne en 2024 a baissé à 2,4.
Lancé par la présidente Claudia Sheinbaum lorsqu'elle était maire de Mexico, ce programme de désarmement va se déployer dans tout le pays. Avec le renforcement de la garde nationale, du renseignement et de la coordination des institutions mexicaines, c'est l'un des grands axes de la politique de sécurité du gouvernement.
Les autorités portent des armes, oui, mais on ne veut pas qu'il y en ait dans les familles. Encore moins si on sait que certaines personnes sont violentes ou liées à un groupe criminel.
Les engins récupérés sont souvent vieux ou hors d'usage. Ils représentent une goutte d'eau par rapport aux 17 millions d'armes à feu qui circuleraient illégalement au Mexique. Pourtant, Geraldo Alvarez, chercheur au sein de l'organisation Mexique Unie contre la délinquance, explique que le pays a une réglementation très restrictive.
Il n'y a que 2 magasins d'armes légales au Mexique et ils appartiennent à l'armée. Le problème, c'est la situation géographique, le fait d'être juste en dessous du plus grand marché d'armes à feu du monde.
Ce grand marché, ce sont les États-Unis, là d'où proviennent les 3/4 des armes illégales saisies au Mexique. Selon un récent rapport de l'Agence américaine de l'alcool, du tabac et des armes, environ 200 000 armes à feu traversent clandestinement la frontière chaque année. Et une fois au Mexique, elles sont utilisées par les groupes criminels. Gerardo Alvarez.
On constate que depuis l'Arizona jusqu'à l'État mexicain de Sonora, c'est la route avec le plus grand pourcentage de trafic illégal et d'armes saisies. C'est important d'avoir ces chemins en tête pour pouvoir construire des politiques publiques.
Justement, le problème de ces armes américaines à l'origine de la puissance des cartels mexicains est sur la table des négociations entre les deux pays voisins. Dans un contexte diplomatique tendu, alors que Donald Trump menace d'imposer des taxes douanières au Mexique pour lutter contre le trafic de drogue et veut déclarer les cartels comme des organisations terroristes. En échange d'un délai, la présidente mexicaine a convenu avec son homologue américain d'envoyer 10 000 soldats à la frontière.
Nous sommes arrivés à cet accord, mais je lui ai aussi exposé la gravité de cette quantité d'armes lourdes qui arrive sur notre territoire depuis les États-Unis. Nous lui avons demandé que son pays soutienne le nôtre pour éviter le trafic d'armes. Et il était d'accord.
Depuis 2021, le gouvernement du Mexique s'est également engagé dans une bataille judiciaire en déposant 2 plaintes contre 13 fabricants américains d'armes à feu. Il accuse ces entreprises de pratiques commerciales négligentes alors qu'elles savent très bien que leurs produits terminent dans les mains des criminels.
Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
RFI Midi.
le journal des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand. Le nouveau directeur territorial de la police nationale en Martinique se dit très surpris par le niveau de violence dans l'île des Antilles.
En poste depuis 3 semaines, après avoir notamment exercé à l'île de la Réunion, Michel Halleux a confié ce matin son étonnement au micro de la première Martinique. Il répondait en direct aux questions de Grégory Gabour.
Je vous avoue, j'étais très surpris en arrivant par le niveau de violence générale, et notamment sur les homicides, tentatives d'homicide, les vols à main armée et les armes, qui sont vraiment... en circulation très importante ici. Je le savais, hein, je savais qu'il y avait une difficulté liée au trafic de stupéfiants à la Martinique. Mais sur les armes, j'avais pas vraiment conscience du niveau de circulation des armes. On est à la Martinique à un taux d'homicide qui est très élevé. C'est 4 fois le taux national, c'est très important. Et le fait que je viens d'arriver, j'ai encore une capacité d'étonnement assez importante. Et donc, c'est vrai que c'est une préoccupation pour moi, mais ainsi qu'aux autorités. On en a discuté avec monsieur le préfet, avec monsieur le procureur. Je pense que c'est un vrai sujet au-delà de la prolifération des armes. Ces armes sont utilisées. On en a encore eu l'exemple récemment. Donc, je pense que c'est un vrai fléau. Il faut qu'on s'y attelle.
Des armes venues essentiellement d'ailleurs des États-Unis. On en parlait à l'instant. Direction la Guadeloupe avec un tout autre sujet à Pointe-à-Pitre, la Renaissance. La mythique salle de théâtre des années 30, devenue ensuite cinéma, va retrouver une nouvelle jeunesse. Plus précisément, elle est en train d'être reconstruite à l'identique. Christelle Martial.
C'est dans les années 70 que la Renaissance devient exclusivement un cinéma de 2 salles. En 2012, la collectivité Cap Excellence rachète l'édifice qui, faute d'entretien et de problèmes de tassement, se dégrade doucement mais sûrement. En 2018, un arrêté de péril imminent est pris pour ce bâtiment qui menace. Et en 2020, le 25 janvier, c'est le coup de grâce. Et pour certains, peut-être la fin d'une époque, un incendie vient ravager le site. Alors que l'on croyait que tout allait s'arrêter là, Cap Excellence, l'État, la Direction des Affaires Culturelles et la Ville de Pointe-à-Pitre décident de redonner une chance à la Renaissance. Le bâtiment est détruit et commence aujourd'hui la reconstruction à l'identique de sa façade. Plus tard, c'est un projet de plusieurs millions d'euros, porté notamment par Caribbean Cinemas, qui redonnera vie au cinéma mythique. 5 salles, une cinémathèque, un restaurant, un espace coworking et des places de parking. La Renaissance 2.0 est en marche. Et en mai prochain, la façade Art déco d'entre-deux-guerres trônera de nouveau le long de la place de la Victoire, comme pour garder vivant l'esprit d'une époque où la ville rayonnait encore.
Bon après-midi, Alban. À demain.
Bon après-midi, Benoît. On termine en musique avec une association de talents ingénieuse. Elle mêle Haïti, la Colombie, la Jamaïque. C'est Michael Brown avec J Balvin, Beanie Man, Bounty Killer et Tazan qui nous propose aujourd'hui sur RFI Touchdown.
Michael Brown, J Balvin, let go.
Touchdown from dawn, yeah. See me, I know this gone, yeah. Everybody want come on, cause them see me with the dividend, the dollar them.
Touch them, soy yo, soy yo. Bajándome de un maquinón. Todo el mundo sabe quiénes son, porque aquí sobran los dividend, yeah.
Touchdown, hot girl me like, cause she no like clone. She ever look like NFL draft, no throne, no dollars on bone. She wind and go down, got the sandy, got dope and grown, yo. We live the life of luxury, yeah. She back it up like a chop for me. Yeah, yeah. Pool bar at the pool bar at my home. Showing money like Patrick Mahomes. So you know I
touch down from dawn. Yeah. See me, I know this gone. Yeah. Everybody wanna come on. Cause them see me with the dividend. They dollar them.
Yeah. Touch down, so yo. So yo. My hand on my head, they'll mark it on. Todo el mundo sabe quién es eso. Porque aquí sobran los dividend. Dividend, yeah, yeah, yeah. Cuando llego. Me reciben como él lo hizo Tego. Rompan fila que ya está muy dura pa' esperar. Hey, y yo tengo la funda pa' frotarla. Tan fuego como el sol de Jamaica. Todo el mundo la mira cuando baila suelta. Y me ofreció un poco de ginger. Don't get too close, que esa es una sicaria. Oh, oh, oh. Y solo baila con la mía.
c'était Touchdown de Michael Brown, J Balvin, Beanie Man, Bounty Killer ou encore Tazan. Michael Brown en concert le 28 juin prochain à New York. J Balvin, lui, entame une tournée mondiale. Il passera en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, mais aussi en France. C'est la fin d'RFI Midi, il est 14h, bientôt 30 à Paris, une heure de moins, temps universel. On se retrouve demain à 11h30, temps universel, pour une nouvelle édition d'RFI Midi. D'ici là, vos programmes continuent sur RFI. Très bon après-midi à vous. Tout le monde en sait qui est le son.